Il est 19h sur Bac FM 106.1. Bon début de soirée à toutes et à tous. Vous avez fait le bon choix, vous êtes sur la meilleure radio du PAF, 100% pop, rock et métal. En ce début de soirée, c'est l'heure des coulisses de la formation, l'émission où l'on parle études, orientation, vie étudiante et professionnelle, mais sans pression, en mode chill, mais avec des gens qui connaissent vraiment le terrain. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est absolument partout, dans les écoles, dans les entreprises, dans les médias, dans les devoirs des étudiants, dans le bureau des profs, dans les métiers du numérique aussi. Et parfois même dans nos angoisses. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle. Pour certains, c'est un outil révolutionnaire. Pour d'autres, c'est un cauchemar écologique, pédagogique, social, voire professionnel. Cauchemar des professeurs face aux copies générées par ChatGPT. Cauchemar des graphistes face aux images automatisées. Cauchemar des comédiens de doublage face aux films non doublés. Cauchemar de certains métiers qui se demandent s'ils existeront encore demain. Mais sans doute un vrai paradis pour les géants de la Silicon Valley. Mais derrière ces peurs, il y a une question peut-être plus concrète. Comment on apprend à utiliser l'IA intelligemment, puisqu'elle est là, c'est inévitable, sans lui déléguer notre cerveau? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Emeline Roblot. Bonjour.
Bonjour.
Tu es consultante en stratégie digitale, automatisation et intelligence artificielle. Tu es également fondatrice d'EM Digital, formatrice dans plusieurs écoles supérieures, notamment auprès d'étudiants en marketing digital au campus by CCI. Et tu te formes toi-même à la data science et à l'architecture IA. Alors pour commencer simplement, comment toi tu en es arrivé à travailler aujourd'hui dans la stratégie digitale, l'intelligence artificielle et toutes ces joyeusetés?
Bah moi ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans le web. Donc initialement j'ai un master en marketing digital et mon cœur de métier tourne au départ dans tout ce qui a trait à l'acquisition de trafic. Donc globalement quand une marque à un site, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, l'objectif c'est d'optimiser ce site-là pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui arrivent sur le site et achètent les produits de l'entreprise ou alors fassent des demandes si on est plutôt sur une activité de service. Donc ça, c'est, on va dire, mes débuts il y a une petite dizaine d'années. Et puis j'ai vu justement l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a un peu toucher tous les domaines, et notamment forcément quand on travaille avec des outils comme Google, Facebook, etc. C'est un peu des géants qui sont précurseurs dans ces domaines-là. Donc ça fait plusieurs années que l'intelligence artificielle a un peu commencé à révolutionner tout ça, et donc je suis arrivée un petit peu, on va dire, par hasard au gré des évolutions des outils.
C'est intéressant parce que tu es une experte sur le sujet. Peut-être que dans 50 ou 100 ans, tu sais, on fera une frise chronologique des grands événements dans l'intelligence artificielle. Toi, le tournant, tu l'as vu quand? Il y en a qui parlent de 2020, le Covid, tu sais, avec l'arrivée progressive de ChatGPT.
Alors, on va dire qu'il y a eu deux grands mouvements. Le premier, effectivement, avec le Covid et ChatGPT, qui a vraiment bouleversé le panorama au niveau grand public. Parce qu'il faut savoir que l'IA ne date pas de 2020. On l'utilisait bien avant, mais vraiment dans des secteurs très spécifiques et entre guillemets un petit peu élitistes, notamment avec tout ce qui était les chercheurs dans des domaines vraiment très très pointus et très très spécifiques. Et ChatGPT est vraiment venu, a vraiment amené cette technologie au grand public, entre guillemets au commun des mortels. Et donc ça a été vraiment le premier tournant. Et le deuxième tournant, il est plus récent. Il est plutôt 2025 et notamment fin 2025, avec vraiment l'évolution des modèles d'intelligence artificielle, avec notamment les modèles de Claude, où là on a vu vraiment une professionnalisation des outils, des modèles et vraiment des réponses beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus précises. Et du coup, c'est ce qui a amené vraiment ce deuxième point de flexion et cette réflexion autour de, entre guillemets, les métiers vont mourir.
J'ai le sentiment que par tes activités professionnelles et même tes passions, j'ai l'impression que tu vis un peu la chose. Oui. Tu as, comme qui dirait, un train d'avance par rapport à tout le monde. C'est aussi comme ça que tu le ressens, toi ?
Ouais. Alors, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, je suis passionnée par l'IA, mais par mon métier de base, par le web, le digital. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que c'est vraiment tout le temps en train d'évoluer. Et du coup, il faut vraiment se tenir au courant de tout ce qui bouge. On a tout le temps des choses à tester et c'est vraiment ça que je trouve passionnant. Et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir cette curiosité fait que globalement, j'ai toujours cette idée de tester les nouvelles choses, etc. Donc j'ai l'impression de prendre le train qui est un peu en train de nous arriver dessus. Et je dirais que mon ambition, c'est justement d'embarquer les profils, que ce soit les jeunes par mon activité justement de formatrice ou les collaborateurs dans les entreprises. En tout cas, j'essaye de les embarquer dans ce train-là pour justement un petit peu gommer toutes ces craintes et faire en sorte que justement ils soient prêts pour toutes les évolutions qui vont arriver.
Tu écris notamment dans un texte que tu m'as pu m'envoyer que tu avais l'impression d'avoir des super pouvoirs grâce à l'IA. Je voulais un peu que tu précises ta pensée là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Alors, je pense que globalement, moi, je suis un peu... Enfin, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans maintenant. Et donc, je me définis un petit peu comme une entrepreneure. Et je travaille toute seule. Donc globalement, j'ai 3 grands axes dans mon activité. Donc toute la partie accompagnement des entreprises, la partie formation et j'ai un petit peu des side business, si je schématise un peu, l'objectif de gagner de l'argent sur Internet.
Des business annexes pour la traduction littérale.
Et du coup, l'inconvénient quand... quand on a un peu, quand on travaille toute seule, c'est que on a un temps limité. Et donc il faut faire des choix, il faut faire des priorisations. Comme on dit, il faut choisir ses combats. Et du coup, en fait, l'IA permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on va dire que sur les 6 derniers mois, j'ai pu accélérer sur un certain nombre de projets. Et j'ai lancé un certain nombre de projets qui auraient mis plusieurs mois, voire plusieurs années à être lancés avant l'IA. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression d'avoir un peu des super pouvoirs, c'est que j'ai l'impression d'avoir acquis énormément de compétences en très peu de temps et d'avoir pu lancer énormément de choses en très peu de temps, ce qui n'aurait pas été possible avant l'IA.
Tu parles de super pouvoir, de tâches que tu as effectuées plus rapidement que si l'IA n'était pas là. On parle de quoi exactement ? De rédaction, d'analyse de données, d'automatisation peut-être aussi ?
Oui, exactement. Alors en fait, il y a plein d'aspects. On va dire que le premier aspect, c'est effectivement sur toute la partie analyse de données, analyse de documents, rédaction par exemple de compte rendu. Pour mes clients, je fais énormément de réunions. Quand on a une réunion avec, je ne sais pas, 8-10 personnes autour de la table, globalement, à la fin de la réunion, ce qui se fait, c'est un compte rendu où on doit synthétiser un petit peu tous les points qui ont été abordés. Et on va dire que un compte rendu prend à peu près 1 à 2 heures en fonction de la durée de la réunion. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est des choses qui se font en 5-10 minutes. Donc, ça enlève justement toute cette charge administrative n'est pas forcément très agréable à faire. Et ça permet justement de se libérer du temps pour des tâches qui sont un peu plus amusantes et qui tournent un petit peu plus autour justement de ce qu'on appelle la R&D un peu au sens large. Mais ça peut être justement quand on a une idée de projet à lancer, on va un petit peu creuser tous les aspects par exemple, à qui ça peut rendre service, comment je peux justement aider les personnes en lançant ça. Et du coup, c'est ça qui est intéressant justement quand on est entrepreneur, d'aller un petit peu challenger les besoins des clients potentiels.
Toi qui es entrepreneuse, j'imagine que la question de la protection des données t'importe un petit peu. Il se trouve que la majorité des grandes boîtes d'intelligence artificielle sont américaines.
Oui.
Bon, alors on a notre petite IA française, elle s'appelle Mistral, mais elle a eu les résultats qu'on lui connaît, même si bon, elle n'est pas encore morte. mais bon, comment on s'assure qu'on ne donne pas toutes nos données aux États-Unis d'Amérique ou à des milliardaires comme Elon Musk ou Sam Altman, par exemple?
Alors, il y a deux grands types d'utilisation de l'IA. Effectivement, quand on utilise des intelligences artificielles type ChatGPT, Claude, etc., il faut être OK, entre guillemets, avec cette idée-là. Mais après, quand on travaille avec les entreprises, on peut installer des intelligences artificielles en local, c'est-à-dire qu'on va les... En fait, on a dans les locaux de l'entreprise un ordinateur, pour simplifier un petit peu, et on va installer l'intelligence artificielle sur cet ordinateur. Et donc, toutes les données qu'on va lui envoyer sont consignées dans cet ordinateur et ne peuvent pas en sortir. Donc, il y a aujourd'hui des moyens de contrer ça, mais effectivement, quand on est... le grand public, et que on utilise des IA américaines, on n'a pas trop de choix.
Protection,
c'est ça, exactement.
Si ce n'est la RGPD.
Exactement.
L'autre grande peur, c'est évidemment, est-ce que l'IA va remplacer des métiers? Alors, de ce que j'en ai compris, mais tu me corriges si je me trompe, toi tu dis plutôt que les gens ne seront pas remplacés par l'IA, mais par des personnes qui savent l'utiliser. Tu penses que c'est ça le vrai basculement?
Complètement. Aujourd'hui, on parle dans les médias d'agents IA. C'est un petit peu la tendance du moment. Technologiquement, on n'en est pas encore là. En fait, il faut distinguer les assistants IA qu'on peut utiliser avec Claude, ChatGPT, etc., où en fait, on va discuter avec l'IA. On va lui demander de rédiger un document, de rédiger du code, enfin plein de tâches potentielles, et l'IA va nous répondre. L'agent IA, si on va vraiment au bout des choses, c'est vraiment une IA qui est autonome. Donc, par exemple, il y a des entreprises qui se sont lancées, qui vendent un collaborateur comptable IA, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment une IA qui est totalement autonome et qui fait le job d'un comptable. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. C'est vraiment ce côté-là, il est vraiment expérimental. Ce qu'on voit dans les usages des entreprises, c'est vraiment l'IA en tant qu'assistant. Et donc, forcément, pour moi, c'est cet usage-là qui va un peu remporter le game, si je puis dire, dans les années à venir.
Les métiers qui je crois sont le plus inquiétés sont les métiers en fait artistiques, hein. Je prends l'exemple de la chanteuse Sienna Rose qui a eu 5 ou 6 titres dans le top 50 Spotify, qui en fait n'existe pas. C'est une chanteuse soul créée par IA. J'aime beaucoup citer l'exemple des comédiens de doublage, hein. C'est parce que les Français tiennent beaucoup à leur VF, leur version française, et aujourd'hui il est possible de prendre la voix de certains acteurs pour les mettre en français. Je pourrais citer aussi les graphistes par exemple, qui eux sont d'ores et déjà plus ou moins moins appelé en tout cas. Est-ce que toi tu es inquiète pour les métiers à caractère créatif?
C'est une excellente question.
Je te remercie.
C'est vrai que ces métiers-là font un peu le buzz, mais typiquement, au-delà des métiers artistiques, il y a vraiment, je pense aujourd'hui, toute une vague de métiers qui vont devoir s'adapter, et notamment tous les métiers administratifs, où l'automatisation des tâches est quand même assez simple à mettre en place. Et je pense que même si, effectivement, c'est assez simple de créer des images par IA, il y a quand même une perte d'humanité dans ces réalisations, et c'est vrai que je pense que les graphistes font partie justement des métiers qui vont devoir se réinventer, parce que forcément les images créées par IA font un peu c'est un peu la même chose que les métiers administratifs où on peut rédiger, comme je disais, des comptes rendus de réunions, etc. Typiquement, les assistantes administratives qui ne prennent pas ce virage de l'IA vont aussi un petit peu potentiellement mourir face à ça.
Dans ce cas, elle est où en fait la frontière? Où doit s'arrêter l'intelligence artificielle? Il y a un article du Monde qui expliquait que l'IA arrive tranquillement chez France Travail, hein, anciennement Pôle emploi pour les gens qui nous écoutent, et que ça provoquait chez ce qu'on appelle les conseillers une certaine perte de sens, puisqu'en fait maintenant c'est un algorithme qui gère tout ça. Donc pour poser ma question plus clairement, où doit s'arrêter l'IA? Est-ce que ça doit être vraiment juste un outil, puisque ça n'en prend pas la direction, ou vraiment quelque chose qui est amené à remplacer ou modifier certains postes?
Alors, dans un premier temps, je pense qu'effectivement, c'est un outil. Si on part dans le sens de cet assistant IA qui nous aide à faire des tâches un petit peu chronophages, on est clairement dans l'outil, au même titre que la bureautique a été un outil il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on aurait du mal à faire notre travail sans Excel, sans Word, etc. Et je pense que demain, faire notre travail sans l'IA, ça va être très compliqué. Mais effectivement, il y a cette notion de sens et d'humain qui ne doit pas être oubliée. Et aujourd'hui, il y a des cartographies des métiers qui sont sorties justement avec un petit peu les points rouges sur les métiers qui sont à fort risque de disparition et des points verts pour les métiers qui sont un petit peu plus protégés. Et ce qu'on voit sur ces cartographies, c'est que tous les métiers où il y a de l'humain dedans sont beaucoup plus protégés que les métiers plus informatique entre gros guillemets. Donc effectivement, l'enjeu va être de préserver les échanges humains et le sens dans tout ça.
Toi, tu interviens dans de nombreuses écoles supérieures auprès des étudiants, hein, notamment. Qu'est-ce que tu observes chez les étudiants aujourd'hui? Est-ce qu'ils savent utiliser de l'IA? Mais est-ce qu'ils le font bien? Est-ce qu'ils le font pas bien? Est-ce qu'il y a peut-être des clichés, hein?
Alors, c'est vrai que depuis quelques années, notamment depuis l'avènement de ChatGPT, ce qu'on observe, c'est que les étudiants mettent de l'IA de partout. Le problème, c'est qu'ils le font sans conserver leur esprit critique. Il faut garder à l'esprit que l'IA, elle peut nous sortir des très grosses bêtises. Et donc, il faut quand même avoir cette capacité de challenger ce que nous donne l'IA. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a deux catégories d'étudiants, ceux qui vont l'utiliser à bon escient pour aller plus vite, plus loin et vraiment pour essayer de comprendre des concepts qu'ils n'auraient pas forcément abordés sans l'IA. Et puis, il y a un petit peu l'utilisation de l'IA par flemme, en mode, c'est bon, l'IA va le faire, j'ai pas besoin de me creuser la tête. Donc, il y a vraiment, on va dire, ces deux aspects-là. Et je pense que ça se retrouve aussi de partout, dans plein d'utilisations potentielles.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi, tu sais, le circuit de la récompense? On va beaucoup totalement. Sur TikTok, on scroll, on a tout de suite ce qu'on veut, en
oui,
fait.
Oui, totalement. Et ça, on le voit aussi, alors au-delà de l'utilisation de l'IA, dans le temps d'attention des étudiants et des jeunes, c'est très très compliqué de maintenir l'attention des jeunes qui sont justement happés très facilement par le divertissement. Et effectivement, quand on devait lire un livre de 500 pages pour essayer de comprendre un concept, cette récompense, elle était différée. Et aujourd'hui, avec l'IA, ça va encore dans cette société de tout de suite.
Alors, dans ce cas-là, c'est quoi la solution? Est-ce que toi, par exemple, tu plaides pour une régulation de la loi qui est plus stricte aujourd'hui, alors qu'elle existe assez peu?
Alors, la régulation arrive là au niveau de l'Union européenne. Ils ont voté et les entreprises doivent se mettre en conformité d'ici août 2026. L'AI Act, donc qui est l'équivalent du RGPD, mais pour l'IA. Donc la régulation arrive. Moi, je pense que l'enjeu, il est plutôt sur justement la formation. L'IA arrive. Ça, c'est inévitable. On est déjà en plein dedans et ça ne va pas se changer dans les années à venir. Je pense que l'enjeu, il est justement sur le système éducatif au sens large et comment justement on apprend aux jeunes à utiliser l'IA à bon escient et surtout comment on fait pour développer ce fameux esprit critique qui fait défaut, je trouve, aujourd'hui.
Parce que des IA qui ont posé problème, il y en a. Là, celle qui me vient en tête, c'est l'IA Grok, donc l'IA de Twitter. Alors maintenant, c'est X qu'on appelle ça, je me fais pas au changement de nom. L'IA donc du milliardaire d'extrême droite Elon Musk, qui a posé problème. Par exemple, en ce début d'année 2026, les gens se servaient de l'IA pour déshabiller des femmes sur Internet. On a parlé d'agression sexuelle numérique. C'est une IA aussi qui a fait preuve de propos racistes, homophobes, sans doute à l'image de son créateur. Est-ce que là aussi, il faut enseigner à ça, à prévenir de attention, les IA ont eux aussi peut-être des biais.
Tout à fait. Justement, je disais tout à l'heure que l'IA pouvait dire des grosses bêtises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle est entraînée sur un jeu donné qu'on va lui apporter quand on crée et qu'on entraîne cette IA. Donc typiquement, l'IA d'Elon Musk, elle a été entraînée sur les données de Twitter, de X, et donc forcément, tout ce qu'elle va sortir comme résultat va être biaisé par rapport aux données d'entraînement qu'elle a eues. Et donc effectivement, il y a cet enjeu-là de sensibiliser les jeunes et les utilisateurs de l'IA au sens large, sur effectivement, l'IA nous donne un résultat, mais c'est pas parce que l'IA dit ceci qu'il faut le prendre pour argent comptant.
On a parlé de la formation des étudiants. Est-ce que la formation des enseignants est aussi un gros chantier qui doit être mené ?
Oui, complètement, parce que y a aussi un enjeu de la formation, parce que les enseignants ne savent eux-mêmes pas forcément utiliser l'IA correctement, ça c'est un premier point. Et il y a un deuxième point, c'est aussi, il faut sensibiliser sur tout ce qui va être lié aux corrections. Parce qu'aujourd'hui, forcément, l'IA s'invite de partout, même aux études de cas, etc. Les enseignants et les correcteurs sont un peu démunis sur qu'est-ce qu'on fait, comment on corrige ça, est-ce qu'on doit corriger, entre guillemets, ChatGPT. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu-là. Et quand je parlais tout à l'heure de système éducatif au sens large, globalement, ça englobe aussi tout cet aspect-là.
Tu dis notamment que maîtriser l'intelligence artificielle, c'est pas seulement taper une question dans ChatGPT, alors une question, ce qu'on appelle un prompt dans le jargon. Pour toi, c'est quoi une vraie compétence IA aujourd'hui ? Je sais pas si t'as des exemples, par exemple.
Alors aujourd'hui, il faut comprendre que ce qui va changer globalement, quel que soit le modèle qu'on va choisir, que ce soit Claude, ChatGPT, etc., la performance du modèle va être à peu près équivalente. Ce qui va faire toute la différence, c'est l'explication du contexte. Je prends un exemple, sans forcément parler d'IA, quand un étudiant, quand on explique l'énoncé d'une question à un étudiant, des fois, quand nous, en tant que formateurs, en tant qu'enseignants, on l'explique, c'est clair dans notre tête, mais la façon dont on va l'expliquer, ça va pas forcément être clair pour l'étudiant. Le contraire est vrai. Quand un étudiant a une idée en tête, la façon dont il va expliquer ce problème-là à l'IA va conditionner la pertinence de la réponse. Donc ça veut dire que si l'étudiant n'est lui-même pas capable, capable entre guillemets, mais d'expliquer son problème, ce qu'il attend, etc., forcément l'IA ne va pas le comprendre et donc la pertinence de la réponse ne va pas être hyper intéressante.
Une autre critique qu'on entend souvent, c'est la question écologique. On parle de consommation d'énergie énorme, bien plus que pour une recherche sur un moteur de recherche quelconque. Des data centers qu'il faut refroidir encore plus, des usages parfois inutiles. Comment toi tu vois ça ? Je rappelle que l'éco-anxiété touche la moitié des jeunes de 16 à 25 ans.
Effectivement, c'est un problème quand on voit tous les enjeux liés à l'écologie. C'est un vrai sujet. Et effectivement, je pense que il faut être conscient de tout ça. Et typiquement, si je prends un exemple, quand la génération d'images par IA est arrivée, on a vu une grosse vague de la génération des starter packs. Et on voyait ça un peu de partout sur LinkedIn. Typiquement, faire ça, quand on fait ça, on creuse un peu, alors entre guillemets, la tombe, dans le sens où c'est pas une utilisation qui est raisonnée et ça va un peu dans je fais ça pour faire comme tout le monde.
Peut-être pour les gens qui nous écoutent, les starter packs, c'était une sorte de trend, une mode, hein, comme on dit en français, qui résumait à se générer une image de soi-même avec des objets qu'on a souvent sous forme de jouets, en fait. Voilà,
exactement.
Starter pack.
Un petit peu comme on pourrait avoir les paquets en plastique avec les Barbie et les Playmobil, par exemple.
C'est marrant ce parallèle entre plastique et écologie, justement.
Oui, tout à fait. Et du coup, bah voilà, pour moi, l'enjeu, il est là, c'est comment on a une utilisation de l'IA qui est raisonnée. Typiquement, pour une question basique, peut-être que faire une recherche sur Google, ça peut suffire et il n'y a pas forcément besoin d'aller demander à l'IA.
C'est Gemini qui révélait qu'une des recettes, une des questions qu'on lui posait le plus souvent, c'était les recettes pour des gâteaux, par exemple, et tout. Recherche, qu'on pourrait faire tout à fait sur un ordinateur sans utiliser l'intelligence artificielle. Alors, pour un étudiant qui nous écoute et qui se dit ce soir, bon, ok, l'IA est inévitable, elle est là, j'ai capté. Quel serait le premier réflexe à avoir? Est-ce que tu conseilles déjà certaines formations? Parce que là aussi, il y a quelques arnaques.
Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a des écoles, comme le campus CCI Nièvre qui, qui justement forme les étudiants et a comme enjeu d'intégrer l'IA dans les formations. Effectivement, il faut éviter tout ce qui est les formations entre guillemets gourous, c'est-à-dire par exemple je vois une pub sur Insta ou sur TikTok qui me vend que je vais arriver à utiliser l'IA si je prends la formation de 7 heures à 200 €. Ça, typiquement, c'est le genre de piège qu'il faut éviter. Donc, je dirais qu'il faut rester sur des organismes qui sont agréés par l'État et qui prennent un petit peu ce tournant.
J'ai une dernière question qui est un peu plus large, un peu plus d'opinion, si je puis dire. Comment tu vois le futur, toi, dans 10-15 ans? En 2020, on pouvait générer du texte avec ChatGPT. Maintenant, on peut générer des vidéos. Sans doute qu'on pourra générer des films d'une heure et demie. Comment tu vois le futur, toi?
C'est
une vaste question.
Une vaste question, effectivement. Et surtout, même les chercheurs n'ont aucune idée de la vitesse à laquelle ça évolue. Globalement, là, on est mi-2026. Les chercheurs, il y a des papiers qui sont sortis qui expliquaient qu'on atteindrait le niveau auquel on est aujourd'hui en 2035. Donc, il y a vraiment la technologie évolue extrêmement rapidement et beaucoup plus rapidement que ce que les inventeurs de l'IA avaient imaginé. Donc, c'est une vaste question, effectivement. Pour essayer d'y répondre, en tout cas d'apporter mon opinion, je pense que le train, il se prend maintenant et que globalement, si on prend le train aujourd'hui, on va pouvoir faire de grandes choses et de très belles choses avec l'IA. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui pourraient se solutionner grâce à l'IA. Je pense, par exemple, il y a dans le domaine de la santé, il y a des chercheurs qui utilisent la puissance de l'IA pour essayer de trouver des solutions à des maladies typiquement le cancer ou ce genre de choses. On peut espérer que l'IA nous permette de faire des très très belles avancées dans les années à venir.
Merci beaucoup, Émilie Droblot, d'avoir répondu à mes questions.
Merci de l'invitation, c'était un grand plaisir.
Je rappelle que tu es consultante en stratégie digitale, automatisation, c'est pas facile à dire, et intelligence artificielle, et tu es la fondatrice d'EM Digital. Ce qu'on retient de cette émission, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas seulement un gadget ou un sujet à la mode, c'est un outil de travail, un outil d'apprentissage, parfois un accélérateur, mais aussi un vrai défi pour l'école et pour les politiques qui vont devoir, d'une façon ou d'une autre, s'emparer de cette question qui, on l'a dit, est inévitable. C'était les coulisses de la formation sur BAC FM 106.1, votre radio pop rock metal. Restez avec nous, la soirée continue sur BAC.